Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de cosmétiques de luxe, de CETA, puisque vous le savez, le Premier ministre Gabriel Attal est en ce moment même, du reste, avec Justine Trudeau, puisque mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano. Il est président de Sisley et coprésident du métier. Bonsoir Philippe Dornano.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets. On va parler donc de commerce extérieur. On va parler, tiens, de seniors. Vous n'êtes pas dans les négos, vous, le métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais enfin, maintenant, intéressant de savoir. Et puis, on va parler de Sisley, on va dire un peu pour une fois, parce que vous avez vous lancé en ce moment même une nouvelle marque, donc c'est toujours un événement pour un groupe comme Sisley, et puis une nouvelle marque notamment aux États-Unis. Et alors certains parlent d'intelligence artificielle, vous vous lancez dans l'intelligence émotionnelle. On verra ça tout à l'heure. D'abord, pour la première fois, le commerce extérieur, la cosmétique est le deuxième poste et vous avez franchi la barre des 20 milliards, 23 milliards. Le CETA, ça vous concerne, là, alors que Gabriel Attal est en train d'en parler?
Oui, ça nous concerne. On est,
vous êtes pour ou vous êtes contre?
La cosmétique vend dans le monde entier et nous, on est plutôt pour, dans la mesure où le CETA, ça a été mis en place il y a 7 ans. C'est opérationnel,
oui, c'est ça qui est paradoxal.
Ça n'a pas été voté. Et ce qu'on constate, c'est que ça, les échanges de la cosmétique française au bénéfice de la France ont augmenté de 60%. Donc on voit que c'est un secteur qui bénéficie du CETA. Par ailleurs, on voit que même des secteurs comme l'agriculture bénéficient globalement du CETA, hein, puisque les échanges agricoles ont augmenté de 30%. Il y a par contre effectivement des écarts à l'intérieur de l'agriculture entre certains secteurs et d'autres, ce qui peut être éventuellement organisé et prévu pour que ces secteurs-là soient compensés. Mais globalement, le CETA bénéficie à notre pays.
Et donc, notamment au luxe, pour vous avez dit, pardon, c'est plus combien
Plus 60% en 7 ans, l'augmentation des échanges.
C'est sur la cosmétique ou sur le luxe?
Sur la cosmétique. Ouais. Non, uniquement sur la cosmétique.
Oui, d'accord. Ouais. C'est important. Ouais. Vous êtes pour les accords internationaux? Est-ce que ça vous favorise ou de toute manière?
On est pour les accords internationaux, comme d'ailleurs l'ensemble, comme que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entreprises, qu'à partir du moment où ils sont équilibrés.
Ouais.
Il faut par contre, bien sûr, négocier, être défendu et avoir des situations réciprocité. Un exemple, ouais. Par exemple, lorsqu'on exporte au Brésil, on paye 200% de droits de douane.
Ah oui, donc là, effectivement, il y a un petit souci. Ouais.
Ou l'Inde, plus de 100% de droits de douane. Donc il y a des pays qui sont effectivement ouverts, et certes, ils importent chez vous, mais vous pouvez exporter chez eux. D'autres pays qui, effectivement, ont fait d'autres choix, et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas, il y ait une réciprocité.
C'est pour ça qu'à la limite, le Mercosur, vous y seriez, vous, à titre personnel, et puis pour la profession de la cosmétique, plutôt favorable.
Parce que favorable si les négociations prévoient qu'un échange équitable ait lieu, en tout cas pour notre secteur.
Il n'y a pas 200% de droits
de douane. Après, bien sûr, la cosmétique n'est pas le seul secteur, mais il faut que ce soit un ensemble.
Est-ce qu'on peut dire quand même que lorsqu'on voit les chiffres incroyables, hein, de la cosmétique et du luxe français, est-ce qu'on peut dire que pour vous, vous ne connaissez pas la crise? Vous, là, un peu, on voit bien que c'est difficile, notamment en France, on en dira un mot. Vous, c'est incroyable.
Enfin, je crois qu'on a construit en France collectivement, grâce au succès d'un certain nombre d'entre nous et un travail dans le temps, à la fois des marques fortes et une filière.
Ouais.
Et ça se protège, mais je ne dirais pas qu'on ne connaît pas la crise. On est très, très concurrencé. Il y a énormément d'enjeux dans la cosmétique. Il y a énormément d'autres pays qui produisent de plus en plus de la cosmétique et qui est concurrente de la cosmétique française. La France reste leader, mais dans le monde, dans l'entreprise, rien n'est jamais acquis.
Oui. Tiens, puisqu'on est dans les sujets d'actualité, on en a beaucoup parlé là ces derniers jours, sur la négociation sur les seniors. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'accord, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord, le patronat n'a pas resté campé sur ses positions, les syndicats aussi, mais d'une autre manière. Mais en réalité, il n'y a plus d'accord sur l'assurance chômage, et puis c'est peut-être le gouvernement qui va rafler la mise. Bon, vous, vous n'êtes pas partenaire social dans le sens légal du terme, mais en même temps, vous représentez toutes les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez jugé cette séquence?
Bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que les ETI, qui sont à 70% des entreprises familiales, sont des entreprises qui, dans lesquelles...
Qui jouent le jeu sur les seniors.
Voilà, enfin, qui jouent le jeu, ou en tout cas, qui sont... Je dirais, c'est même pas une question de jouer le jeu, c'est nous considérons les seniors comme un atout pour nous. Et nous sommes heureux de les avoir dans nos entreprises. Ils ont une expérience, ils ont une connaissance, parfois même une connaissance précieuse. Et donc, on a nos besoins. On a d'ailleurs, dans certains domaines, des difficultés de recrutement. On a nos besoins de toutes nos équipes. Et on valorise le travail de long terme dans nos entreprises. C'est un peu le propre de nos entreprises de long terme d'avoir ce raisonnement-là. La deuxième réflexion que je me fais, c'est qu'on est en train de parler aussi de 5,2% de déficit d'une dette qui est de plus en plus importante. On sait d'autre part que le Conseil d'orientation des retraites est en train de complètement réévaluer ses estimations pour des estimations beaucoup plus réalistes et pense que malgré la réforme des retraites, on sera de nouveau en déficit en 2030. Et la question collectivement, simplement, c'est si on vide les économies qui semblent déjà pas suffisantes...
Ah oui, c'est d'accord. Là, vous êtes sur les cagnottes. Enfin, voilà. Cagnottes... maintiens les guillemets à chaque
non,
fois.
Non, c'est pas une question de cagnottes, c'est une question d'avoir des régimes équilibrés. Si le régime n'est pas durablement équilibré, on aura donc collectivement une difficulté, on aura donc un déficit, on aura donc donc il est important d'y faire face. Et donc si on n'arrive pas à trouver un accord, le gouvernement reprendra la main. Je comprends un peu le fait qu'on puisse pas. On a déjà augmenté les retraites de 5,2% au 1er janvier, c'est-à-dire très nettement supérieur à l'inflation. Oui. Donc il y a quand même collectivement une prise de conscience qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on produit.
Mais le fait que le gouvernement, c'est celui qui reprend complètement la main, c'est les conséquences de cet échec. Enfin, a priori, sauf si évidemment les partenaires sociaux se remettent à travailler autour d'un accord. Mais est-ce que pour vous c'est la fin du paritarisme? Ça veut dire quelque chose? Ou alors voilà, c'est une séquence?
Non,
c'est une mauvaise séquence.
Pour moi, c'est une séquence, mais pour moi surtout, il faut savoir qu'on ne peut pas collectivement avoir 30 ou 40 ou 50 milliards ou 100 milliards de déficit chaque année. C'est juste impossible.
Okay, ça, c'est plus général.
C'est en réalité le fin mot de l'histoire. Et qu'il faut donc avoir des régimes qui soient raisonnablement équilibrés. Et si ça n'est pas le cas, effectivement, il faut qu'on l'adresse. Ça ne sera pas possible d'avoir 5,2% de PIB de déficit chaque année.
Philippe Dornano, on va parler de Sisley, parce que c'est là vous avez lancé une nouvelle marque. Donc Sisley, grosso modo, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est 4080 personnes. Vous êtes présent dans 112 pays, enfin de mémoire, vous me dites si je me trompe. Vous gagnez combien le bénéfice, c'est quoi?
On ne communique pas sur nos bénéfices parce qu'on est une entreprise familiale.
Mais
c'est une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise qui a beaucoup investi.
Est rentable ou très rentable?
C'est une entreprise qui est rentable selon les critères de la cosmétique, qui s'est beaucoup développée, qui a beaucoup investi. C'est une entreprise qui va investir là dans les deux prochaines années 110 millions, pardon. Oui. Là, je suis passé sur les milliards.
Ouais.
110 millions d'euros sur ses sites industriels en France. C'est une entreprise qui produit en France et qui, à partir de la France, exporte vers l'international. Effectivement, on construit une deuxième usine de production à Vendôme. On double aussi notre centre de recherche à Saint-Ouen-l'Aumône et notre centre administratif. C'est quasiment 110 millions d'investissements. C'est près de 5000 salariés, dont 1300 salariés en France. Donc, c'est une entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires dans les 7-8 dernières années.
Ouais. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut créer des usines, on peut développer des ETI en France.
Alors, on peut les développer, mais on ne peut pas faire l'économie du sujet de la compétitivité. Parce que si on fait l'économie
de ce
sujet...
C'est votre grand cheval de bataille, mais à
juste titre. Oui, parce que si on fait l'économie de ce sujet, ça va commencer par notre filière qui va se paupériser, qui va disparaître. Ça va ensuite être des pans d'entreprises qui vont commencer à produire à l'étranger. Et un jour, on se fasse réveiller et cette industrie cosmétique dont on est fier en France et qui est notre deuxième poste, notre deuxième excellent d'exportation, elle ne sera plus là. Les marques produiront ailleurs. Il ne faut pas oublier que la cosmétique, c'est très, très concurrentiel.
Et juste un petit point sur la zéro artificialisation nette. des sols. On a vu que les projets industriels, a priori, ne seraient pas les grands projets industriels, ne seraient pas touchés, impactés par ça. Vous, ça peut vous impacter ?
Alors, le problème, c'est le mot « les grands ». C'est-à-dire qu'en réalité, pour les ETI, ça va impacter les projets industriels. L'industrie, c'est moins de 3% de l'artificialisation. Et donc, la question, il y a une question de bon sens qui se pose. Est-ce que cette radicalité, ce zéro artificialisation des sols, est-ce que c'est pas de nature, à partir du moment où ça va empêcher le développement économique, de créer une réaction de rejet vis-à-vis du sujet de l'artificialisation? Cette radicalité dans le domaine écologique, c'est presque l'ennemi de l'écologie. Il faut que des projets d'activité puissent se développer. D'ailleurs, les collectivités locales sont les premières à le dire.
Ouais.
Et il faut avoir raisonnablement la possibilité de créer des emplois, de créer de l'activité dans notre pays, qui, je le rappelle, est un des pays les moins artificialisés en Europe.
Oui, c'est toujours ce côté excessif. Alors, lancement d'une nouvelle marque, pourquoi c'est un moment important pour vous? Je disais en introduction, en faisant un petit clin d'œil, certains font de l'intelligence artificielle, vous faites de l'intelligence émotionnelle, puisque votre nouvelle marque, elle s'appelle Neurae. C'est un lancement qui représente combien pour Sisley?
Alors, qui représente 11 ans d'innovation, de travail sur cette marque, parce que au début il n'y a pas de chiffre d'affaires, hein, vous lancez une nouvelle marque.
Non, mais d'investissement, j'entendais, parce que 11 ans.
Et en investissement, je peux pas vous donner un chiffre précis, mais c'est 11 ans de travail.
Oui.
C'est une
injection.
Et nous sommes une marque qui est familiale, personnelle. Ma famille travaille dans les cosmétiques depuis à peu près 90 ans maintenant. On a créé plusieurs marques en France.
Si Lancôme,
c'est comme vous
notamment.
L'avez dit. Orlan et ensuite Sisley. On a créé aussi une marque dans le groupe Sisley qui est Rituel, qui est une marque capillaire qui a maintenant 5 ans et qui s'est vraiment formidablement développée, parce que on est dans les 112 pays avec beaucoup de succès. On a reçu plus de 300 prix dans la presse internationale et la marque est en très forte croissance. On vit de l'innovation, on vit de la création. On a une liberté de créer dans cette catégorie qui est la cosmétique et le capillaire. Et on cherche aussi, quand on crée une nouvelle marque, des champs de recherche qui sont des champs puissants. Et c'est le cas des neurosciences.
Alors là, c'est quelque chose... Oui, on peut se demander qu'est-ce que viennent faire les neurosciences, ou alors c'est que du marketing par rapport à cette nouvelle marque que vous lancez. C'est l'idée, en fait, que nos émotions impacte notre visage et notamment la manière dont est reçue une crème.
C'est d'abord l'étude sur le lien entre le cerveau, le système nerveux et l'ensemble des organes. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième point de progrès, c'est des outils de mesure. En fait, pour optimiser, il faut mesurer.
Et en fait, et on parle d'une crème, c'est ça qui est étonnant.
Et depuis 20 ans, l'IRM, les différents outils de mesure qui vous permettent de mapper dans votre cerveau l'activité dans votre cerveau de vos émotions, mais aussi la compréhension du lien peau-cerveau qui se fait en partie par une connexion électrique, mais en partie par une connexion chimique, c'est-à-dire des neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs qui sont produits à la fois dans le cerveau et dans la peau vous permettent de mieux comprendre comment la peau fonctionne et de regarder si ces neuromédiateurs ont un impact sur votre peau. Ça, c'est très intéressant, et on voit qu'un certain nombre de neuromédiateurs, non seulement ils agissent sur vos émotions, mais ils ont un impact sur l'état de santé de votre peau.
Donc ça veut dire que là, par exemple, si je vais chez vous, vous allez mettre des sortes d'électrodes sur la tête et puis vous allez pouvoir voir comment ma peau réagit.
Ça veut dire surtout que on le sait tous, si je suis effrayé, je vais avoir de la chair de poule. Si je suis stressé, je vais peut-être avoir une irritation. Je vais peut-être être... Ça, on l'a tous vécu, mais on ne pouvait pas l'expliquer. On le savait de manière empirique, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de l'expliquer, de le mesurer. Et ces outils qui permettent d'adresser des produits qui sont des produits efficaces pour la peau et qui luttent contre les irritations de la peau, contre les rides, qui permettent une meilleure fermeté de la peau, en agissant sur ces neuromédiateurs qui sont produits par la peau comme par le cerveau et qui ont une action
sur
votre peau.
C'est étonnant, vous avez fait appel à des médecins, à des quoi ?
On a fait appel à des médecins, on suit beaucoup les recherches médicales sur la manière dont la peau fonctionne, on a travaillé aussi sur des nouveaux types de tests qui permettent de mesurer les actifs qui vont agir sur un neuromédiateur au niveau cutané. C'est un travail qui est vraiment important. Et d'autre part, pour les parfums, on peut aussi maintenant, grâce à l'IRM, mesurer les actions que les parfums ont sur votre cerveau, et c'est absolument passionnant.
Ah oui, ça doit être... Et là, ça, vous lancez ça en ligne, évidemment, aux États-Unis, alors, en France ?
On lance ça dans 5 pays, dans un certain nombre de points de vente sélectionnés. On va être au Sephora Champs-Élysées très, très prochainement. On le vend également en ligne. On va ouvrir une centaine de points de vente en France en septembre. On le lance aux États-Unis dans des grandes chaînes américaines. On le lance dans des parfumeries plus traditionnelles en Italie. On le lance plutôt en digital en Angleterre. Donc, des choix différents de distribution et quelques pays sélectionnés. Mais on est assez confiant sur le succès de ce produit. Et comme vous l'avez dit, on est présent avec le groupe Cissé dans plus de 112 pays. Donc, au fur et à mesure, on développera la marque dans tous ces pays.
Est-ce que vous êtes conscient quand même, vous le savez, j'imagine, c'est qu'en fait, quand on interroge notamment les banquiers d'affaires, il y en a plein qui vous disent, toutes les grandes marques, elles sont à l'affût, elles regardent Cissé en se disant, quand est-ce qu'on peut les racheter ? Vous avez beaucoup de propositions ?
On est une marque, et je pense que c'est de plus en plus compris, on est une marque de créateurs et d'innovateurs. On est une marque familiale, passionnée par les produits. On a été à de nombreuses reprises l'une des marques qui a modifié l'ensemble du paysage cosmétique grâce à des innovations. On a été la première marque à se spécialiser dans les actifs naturels, c'est-à-dire l'utilisation scientifique des extraits des plantes. Et vous savez, vous pouvez extraire des centaines de milliers d'actifs d'une seule plante. Donc il y a un travail scientifique très important. On a été la première marque à créer un soin solaire. Quand vous allez au soleil, votre peau est beaucoup plus exposée. La première marque a créé un soin global anti-âge en 1999 avec Sisleya. On a à chaque fois été très, très innovateur, et c'est ça notre passion.
Votre patte.
Je pense que vous sentez qu'on vit notre entreprise d'une manière forte.
Donc c'est pas pour tout de suite. Les banquiers d'affaires, faudra attendre en tous les cas. On peut dire un mot de étincelle avec mauvais jeu de mots, si j'ose dire ETI majuscule étincelle, parce que c'est un programme qu'a voulu le président de la République pour promouvoir les ETI. Et là, vous avez annoncé et présenté lundi dernier, donc il y a juste quelques jours, 1128. Entreprises que vous avez repérées qui pourraient devenir des ETI, comment est-ce que vous avez fait ?
Vous me disiez à juste raison qu'on se bat sur la compétitivité du site France, mais aussi, on peut aussi prendre le problème sous un autre angle. Nous, notre but, c'est de recréer un tissu d'entreprise moyenne grande en France. Un Mittelstand, je n'osais pas le dire, à l'égal de l'Allemagne ou d'autres pays, d'ailleurs, de l'Europe, l'Italie du Nord. Et on peut prendre le sujet de la compétitivité, mais on peut aussi avoir un autre angle d'attaque pour arriver à ce résultat. Et c'était l'idée d'Olivia Grégoire c'était d'identifier des PME de croissance qui peuvent arriver à la taille d'ETI et essayer de les aider, de voir ce qu'on peut faire pour les aider à se développer. Ce qu'on a fait, nous, pour le gouvernement, c'est une recherche, et on a donc identifié plus de 1100 PME de croissance qui pourraient arriver à la taille ETI et qui permettraient à la France, petit à petit, de rattraper l'Allemagne quant au nombre d'ETI. Je vous rappelle les chiffres, 6300 ETI en France, 17000 en Allemagne.
Oui, et en Italie, c'est 13000, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on est très, très, très en retard. Quel secteur, en fait ? Parce que là aussi, ça rejoint un problème, c'est que lorsque vous regardez les chiffres du commerce extérieur, c'est que vous avez plus de 96% qui exportent, des entreprises, des PME, mais qui représentent même pas 2% ou 3% du commerce extérieur français.
Donc, il faut connaître l'exportation. Le problème de l'exportation, c'est qu'il faut quand même des moyens pour exporter. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour la compétitivité. Et il faut aussi une certaine taille. Il faut avoir à la fois de l'argent et puis il faut avoir des équipes. Il faut avoir le temps pour aller à l'exportation, pour pouvoir construire les projets. Et donc, il faut identifier des entreprises d'abord qui ont des produits porteurs et ensuite essayer de faire en sorte qu'elles puissent progressivement et de manière intelligente aller à l'exportation. Pousser des petites PME à aller trop vite à l'exportation, c'est même dangereux pour elles. C'est donc plutôt à la taille ETI qu'on arrive à vraiment pleinement exprimer la force de l'exportation. Et je vous rappelle que les ETI, c'est 35% du chiffre de l'exportation française. Donc, notre sujet d'exportation, c'est d'avoir en France le même nombre d'ETI qu'en Allemagne. C'est ça ce qui va permettre à l'exportation de se développer.
Oui, il y a du boulot lorsqu'on voit les chiffres. Hein, c'est à peu près moins de 100 milliards. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je parlais du déficit du commerce extérieur, bien sûr. Merci Philippe Dornano, le patron de Sisley et coprésident du Métis.